L'invité de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Valérie Nicolet. Bonjour Valérie Nicolet.
Bonjour.
Vous êtes professeure de Nouveau Testament et doyenne de l'Institut protestant de théologie de Paris.
Oui, la faculté de Paris, exactement.
La faculté de Paris. Et cette année, on célèbre les 50 ans de l'Institut protestant de théologie. Donc, il y a une faculté à Paris et à Montpellier. Et vous allez célébrer cet anniversaire avec une conférence. Alors, vous appelez ça un symposium. Vous allez peut-être nous expliquer le terme autour de cette question. Pourquoi faire de la théologie aujourd'hui? Ce sera à l'IPT Paris du 8 au 11 juin. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi faire de la théologie aujourd'hui à l'occasion des 50 ans de l'IPT?
Alors, c'est un thème où on a des convictions, je dirais, profondes derrière. C'est-à-dire qu'on veut vraiment réfléchir à la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore la peine de faire de la théologie. Et puis, il y a un côté pratique aussi. On est 15 enseignants qui interviennent avec des disciplines différentes. Et on voulait une thématique qui permettait à chaque enseignant, à chaque enseignante d'apporter son point de vue. Donc, il y a un côté, une vraie réflexion théologique sur la nécessité de réfléchir la théologie et un côté pratique pour intégrer le plus de perspectives possible.
Ça s'adresse à quel public ?
Ça s'adresse un peu à tous les publics. Alors, quand on dit ça, ça veut dire que ça s'adresse à personne. Mais non, on espère avoir des gens, évidemment, qui seront nos partenaires dans les autres facultés en France et en Europe francophone. Mais on espère aussi avoir des gens qui sont simplement impliqués dans l'Église protestante unie de France en particulier ou l'Église protestante de manière plus large et qui ont envie de venir pour une matinée, pour un soir, pour un atelier, simplement pour un tout petit peu voir ce qu'on fait à l'Institut. Parce que c'est vrai que je pense que les gens ne savent pas forcément ce qui se passe derrière les murs du 83 boulevard Arago ou de la faculté à Montpellier.
Et bien justement, on va en parler dans la suite de notre émission. Juste pour s'inscrire à cette information, il faut envoyer un email à secrétariat@ipt-edu.
Exactement.
Alors, j'aimerais juste avant qu'on continue cet entretien sur la théologie et l'IPT, vous poser la question que je pose à tous nos invités, à savoir un verset biblique qui vous marque, qui vous parle particulièrement en ce moment, dans le cadre de notre projet d'année à la Fédération protestante de France, qui s'appelle « Oser lire la Bible, un enjeu d'unité ». On souhaite mettre la lecture biblique au centre. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question du verset biblique. Alors, je vous donne la parole pour découvrir votre verset.
Alors, en ce moment, un verset qui m'a passablement accompagné, c'est un verset du prophète Zacharie, le verset 11 du chapitre 1. Alors, j'aime bien le contexte déjà parce que c'est des chevaux qui rentrent d'avoir parcouru la terre et les chevaux parlent. Ils parlent dans les dessins animés, ils parlent dans la Bible aussi. Et ils disent, nous avons parcouru la terre et voici que toute la terre est en repos. Et tranquille. Et je trouve cette idée d'avoir parcouru toute la terre et de revenir et de pouvoir dire la terre est en repos et tranquille, c'est quelque chose qui crée en moi vraiment en ce moment un désir immense, de se dire j'aimerais tellement pouvoir être dans cette position où la terre est en repos et tranquille. Et peut-être que la conviction qui m'habite derrière ce verset, c'est de me dire s'il y a un espace où on a peut-être la capacité de voir ce qui est vraiment pas du tout apparent dans le monde en ce moment, ou dans ma vie personnelle, là aussi, où je regarde mon agenda et tout est booké partout, c'est de me dire, le temps de l'Église, le temps où je me mets face à Dieu, c'est peut-être le temps où je peux voir que la terre est au repos et tranquille. Et je trouve ça très bienfaisant en ce moment.
Merci beaucoup pour ce beau partage. Une autre question sur plus large sur la Bible et notamment sur ce projet de la Fédération qui place la Bible comme un objet, comme un enjeu d'unité et qui essaye de faire lire la Bible, le texte biblique à des protestants différents entre eux, voire très très différents. Comment ça fait écho pour la théologienne que vous êtes ?
C'est un enjeu difficile, je trouve, parce que je pense que toutes les tendances dans le protestantisme tiennent à la Bible. Fortement. Disons ça, c'est peut-être un point d'accord déjà. Mais dans les perspectives que chaque tendance protestante amène sur la Bible, il y a des tensions fortes. Et je pense que c'est des tensions qui sont difficiles à surmonter parce qu'elles vont de... Elles font appel, en fait, à des convictions assez profondes, en fait. Moi, je sais que, en tant que théologienne protestante, je lis la Bible avec un regard critique. C'est-à-dire qu'elle m'apporte un certain nombre de choses, c'est clair. Je m'engage à lutter avec le texte, à réfléchir, à changer ma perspective sur le texte. Mais je sais aussi qu'il y a des choses que j'accepte pas dans la Bible. Et tout le monde n'a pas cette perspective-là. Et c'est pas facile à surmonter, je pense.
Et peut-être que cette approche critique assumée du texte biblique, c'est une des particularités de l'Institut protestant de théologie. Peut-être qu'on peut en parler. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'il y a d'unique ou d'original dans l'approche de l'IPT pour la théologie.
C'est en tout cas, effectivement, la lecture critique de la Bible, c'est une des choses, une des valeurs, je dirais, qu'on met au centre de notre formation.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on entend précisément par lecture critique? Ça peut sonner très négatif.
Oui, c'est vrai. Mais critique, je dirais, avec l'idée d'un pas de côté. C'est-à-dire que, alors moi, je parle en plus là plutôt en tant que bibliste, qui est vraiment ma formation. Je suis une spécialiste des textes bibliques, des textes du Nouveau Testament en particulier. Et c'est vrai que c'est l'idée que, par rapport à cet objet, on se donne la liberté de le voir comme un objet historique, produit dans un certain, dans de nombreux contextes historiques et culturels, dans des langues particulières, et que donc par rapport à ça, on a le, j'ai envie de dire le droit, mais peut-être aussi la responsabilité de dire, ben, il y a peut-être certains des éléments qui sont transmis par ce texte qui est le texte canonique de notre Église, qui doivent être questionnés. Alors, je pense évidemment à un exemple assez évident pour moi, c'est par exemple la position des femmes dans l'organisation du monde telle que les auteurs des textes bibliques l'envisageaient.
Il y a des passages un peu durs dans la Bible là-dessus.
Il y a des passages assez pénibles à entendre, effectivement, où on dit que les femmes ne peuvent pas enseigner ou que les femmes doivent être soumises. Et ces choses-là, je pense que c'est légitime de dire qu'elles sont liées à un contexte historique et culturel et on n'a pas besoin de les prendre au pied de la lettre. C'est dans ce sens-là qu'on parle de lecture critique.
Ça veut dire qu'il y a une attention particulière à l'histoire, au contexte dans lequel la Bible a été rédigée.
Il y a une attention au contexte dans lequel la Bible a été rédigée, et puis il y a une attention aussi au contexte dans lequel nous, on lit les textes. C'est-à-dire qu'on lit tous et toutes les textes avec certaines questions, avec certains désirs aussi, avec certaines perspectives, et que c'est important de s'en rendre compte. Et que toutes ces perspectives peuvent avoir une certaine valeur, mais doivent aussi être en dialogue avec le texte biblique. Donc, je ne pense pas, par exemple, que toutes les interprétations se valent, ou que simplement parce qu'un texte biblique me parle ou m'évoque certaines choses, ça doit quand même se confronter avec les indices dans le texte qui peuvent dire ben, « non, cette interprétation, elle n'est pas correcte ».
Oui, et puis une rigueur et une exigence scientifique, académique que vous revendiquez à l'Institut protestant de théologie qui vous permet des partenariats avec des facultés qui sont des facultés d'État, qui ne sont pas forcément sur la théologie. Ça doit être un exercice pas forcément évident d'approcher le texte biblique, qui est un texte de foi, de spiritualité, avec des outils purement scientifiques. Mais qu'est-ce que ça apporte ?
Alors pour moi, ça apporte énormément de choses. Ça me permet d'abord, il y a une perspective que j'apprécie beaucoup, qui est la perspective que Michel Foucault met en avant sur son rapport à l'histoire, parce qu'il a beaucoup travaillé aussi avec des éléments historiques anciens, alors pas tellement avec la Bible, mais avec d'autres textes, et il dit au fond, j'utilise pas les textes anciens parce qu'ils peuvent me donner une réponse aux questions d'aujourd'hui, mais je les utilise parce que ce voyage, si vous voulez, à travers le texte ancien, peut éventuellement modifier la question que je pose et la manière dont je la pose. Et pour moi, ça, c'est vraiment une perspective que je trouve extrêmement importante. C'est-à-dire que le voyage à travers le texte biblique me déplace. Et du coup, les questions que je me pose ou les réponses que j'évoque, ben, je me dis, quand je lis et quand j'apprends la façon dont le texte biblique s'inscrit dans son contexte, historique et culturel, ça peut modifier ce que je demande au texte. Et ça, je trouve, pour moi, c'est vraiment très, très important.
Ça promet de belles aventures aux étudiants de première année qui envisagent de s'inscrire peut-être. Et justement pour eux, est-ce que vous pourriez décrire ce que c'est qu'une première année en théologie? Quelles sont les matières? Quelle est l'ambiance?
Alors très concrètement, la première année en théologie, c'est vraiment une année d'introduction. Et c'est l'année, je dirais, la plus difficile peut-être pour les étudiants généralement, peut-être aussi la plus importante parce qu'on essaye vraiment de mettre en place les bases de la réflexion théologique. Donc, ils vont avoir des cours dans les disciplines historiques, ils vont avoir des cours dans les disciplines bibliques, ils vont apprendre des langues anciennes. Ils commencent quand même leur année avec
grec,
une semaine.
Hébreu,
voilà,
pas
une
des
semaine.
Langues très faciles, je crois.
Du coup, là, le déplacement est total, quoi.
Ouais.
Et du coup, cette année, je pense qu'elle est assez difficile parce que elle est difficile pour plusieurs raisons. Elle est difficile parce qu'il y a plein de matières nouvelles. Elle est difficile parce que on rencontre un certain nombre de personnes qui viennent d'univers ecclésiaux et culturels très différents.
On sent la région parisienne aussi à Paris qui doit brasser des églises très très diverses.
Exactement. Il y a vraiment des provenances ecclésiales très très variées. Et du coup, ça crée des déplacements, ça crée des discussions. Et puis après, il y a évidemment aussi des déplacements personnels où tout à coup, on se rend compte que les convictions avec lesquelles on venait sont remises en question ou déplacées, où il faut en rendre compte par rapport aux enseignants, par rapport aux camarades aussi. Et du coup, c'est vraiment une année qui crée pas mal de bouleversements, je pense.
Alors, si on veut plus d'informations sur... une première année de théologie, s'il y a des personnes qui se posent la question, il y a toutes les informations sur les facultés de Montpellier et de Paris sur le site ipttheologie.fr. Alors j'aimerais qu'on parle d'une actualité en ce moment de l'Institut protestant de théologie. Vous accompagnez la réflexion sur les nouveaux ministères, les ministères. Ça, c'est une réflexion lancée par l'Église protestante unie de France sur plusieurs années. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer rapidement pourquoi l'Église protestante unie se pose ces questions et quel rôle vous allez jouer dans cette réflexion?
Donc, l'Église protestante unie de France réfléchit sur sa mission d'abord. Et du coup, en lien avec cette mission, une fois qu'on a défini ce qu'on va faire, c'est comment on va le faire. Le métier de pasteur a quand même beaucoup changé. Une centaine d'années, j'imagine, ou peut-être un petit peu moins. Et le modèle du pasteur de paroisse seul, qui est responsable pour toutes les activités, ne correspond plus forcément à toutes les situations. Donc, il y a une réflexion là autour, une volonté de s'adapter. Nous, on y participe en tant qu'organisme de formation des futurs pasteurs. Et donc, c'est l'idée que s'il y a d'autres types de ministères qui sont envisagés, peut-être des ministères plus spécifiques, il faut aussi que nous, on réfléchisse à ce qu'on veut offrir comme formation pour accompagner ces personnes-là. Donc, on réfléchit beaucoup sur les thématiques de l'interculturalité, pas mal sur comment former des gens qui seraient peut-être... qui voudraient être investis dans l'Église, mais pas sur un parcours pastoral de toute une vie, mais sur quelque chose, disons, de plus ponctuel, je sais pas moi, un service à la jeunesse, par exemple, ou les musiciens d'église aussi. Donc, on réfléchit à développer des formations plus courtes, plus intensives, sur des pratiques plus spécifiques.
Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Valérie Nicolet, professeure de Nouveau Testament et doyenne de la faculté de Paris, Institut protestant de théologie. Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.
Je vous rappelle qu'à l'occasion des 50 ans de l'Institut protestant de théologie, un symposium, c'est-à-dire des conférences sur plusieurs jours, est organisé du 8 au 11 juin et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site ipttheologie.fr. Vous pouvez retrouver également toutes les informations de cette émission sur protestantpluriel.org et la réécouter également sur les plateformes de podcast, sur les applications de podcast de votre choix. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France.
L'invité de la Fédération protestante de France.